Il est extraordinaire de constater comme, chez certaines personnes, la peur de manquer un train peut dégénérer en obsession. J'empaille moi-même tous mes petits chéris quand ils rendent l'âme. Voulez-vous une autre tasse de thé ?
Bonsoir.
Sur la cuisson des pâtes, ils pouvaient se montrer désagréablement pointilleux, voire impitoyables.
Oui, Mary, de toute mon âme et de tout mon cœur, je vous aime. Oh, Jack, racontez-moi plutôt une histoire.
Et cette histoire, tu la racontes ?
Ferme les yeux, ça va commencer. Bienvenue dans Ferme les yeux, votre émission de lecture accompagnée de musique. Aujourd'hui, la suite des aventures du réanimateur Herbert West et de son assistant. Déjà. Diable, comme le temps passe vite. Mais l'horreur se fiche du temps. L'horreur se fiche du temps comme d'une guigne. Jamais je ne parviendrai à oublier cet horrible été où, comme un malfaiteur fuyant des fins fonds de l'Ébis, la typhoïde se répandit dans Arkham. C'est à cause de ce fléau satanique que l'on se souvient de cette année. La terreur aux ailes de chauve-souris rôda sur les amoncellements de cercueils dans les tombes du cimetière de Christchurch. Mais pour moi, cette époque est marquée par une autre terreur. Une terreur tout autre, devrais-je dire. Une terreur que je suis le seul à connaître maintenant que West a disparu. Lui et moi suivions les cours d'été à la faculté de médecine de l'université Miskatonic. Et mon ami avait acquis une certaine célébrité à cause de ses sinistres expériences. Après le massacre scientifique d'innombrables petits animaux, ses recherches bizarres avaient été interrompues, sur l'ordre de notre doyen. Mais cela n'avait pas empêché West de poursuivre certaines expériences secrètes dans sa chambre. Un jour terrible et inoubliable, il avait sorti un corps de sa tombe, dans la fosse commune, pour l'emporter dans une ferme abandonnée, derrière Meadow Hill. J'étais avec lui. Et je le vis injecter dans les veines immobiles l'élixir qui, pensait-il, restaurerait dans une certaine mesure les processus chimiques et physiques de la vie. Cela s'était terminé d'une façon horrible, dans un délire de terreur, que nous finîmes par attribuer, pour nous rassurer, à nos nerfs surmenés. Mais West n'avait jamais pu, par la suite, se délivrer de la sensation d'être suivi et traqué. Le corps n'était pas suffisamment frais, et l'incendie de la vieille maison nous avait empêchés de l'enterrer à nouveau. Nous aurions préféré le savoir sous terre. Après cette expérience, West avait interrompu ses travaux quelque temps. Mais bientôt, il recommença à importuner les professeurs de l'université en insistant pour qu'on lui permît d'utiliser la salle de dissection et des spécimens humains frais pour des travaux qu'il estimait de la plus haute importance. Ses désirs ne furent pas exaucés, le doyen Halsey ne se laissa pas fléchir et les autres professeurs l'approuvèrent. Il faut dire que, dans cette théorie de la réanimation, il ne voyait rien d'autre que les divagations d'un jeune exalté, dont la frêle silhouette, les cheveux blonds, les yeux bleus protégés par des lunettes et la voix douce, ne laissaient pas soupçonner la froide et presque diabolique puissance mentale. Je le revois encore tel qu'il était, et j'en frissonne. Son visage ne donnait pas l'impression de vieillir. Et à présent, il y a eu cet accident à Sefton et West a disparu. Il avait eu une vive altercation avec le docteur Halsey, vers la fin de notre dernière année d'études, ce qui d'ailleurs lui avait causé plus de tort qu'au doyen. Il estimait être retardé inutilement dans un travail de la plus haute importance, un travail qu'il poursuivrait bien entendu ultérieurement, mais qu'il désirait entreprendre tant qu'il avait encore les facilités exceptionnelles de l'université. Et que les aînés, liés par les traditions, méprisent ses résultats sur les animaux et persistent à nier toute possibilité de réanimation, cela l'écœurait. Le jeune homme logique qu'était West n'avait pas suffisamment de maturité pour comprendre les limites mentales du type docteur-professeur. Vous savez, ce produit de génération de puritanisme, un puritanisme bienveillant, consciencieux, parfois gentil et aimable, mais toujours étroit, intolérant, prisonnier des traditions et manquant définitivement d'ouverture. West, qui était très jeune d'esprit, malgré ses étonnantes connaissances scientifiques, avait peu de patience avec le bon docteur Halsey et ses érudits collègues. Il nourrissait un ressentiment grandissant, en même temps que le désir de prouver, de façon éclatante et théâtrale, ses théories à ces hommes respectables, mais tellement obtus. Comme la plupart des jeunes gens, il se laissait aller à des rêveries de vengeance, de triomphe et finalement de pardon magnanime. C'est alors que le fléau surgit, grimaçant, mortel, venu des cavernes cauchemardesques de Tartarie. West et moi avions obtenu nos diplômes quand il commença à se manifester, mais nous étions restés au cours d'été pour faire des travaux supplémentaires, si bien que nous étions à Arkham lorsqu'il se déchaîna sur la ville. Bien que diplômés, nous n'avions pas encore le droit d'exercer. Cependant, on nous pria instamment de nous mettre au service de la communauté, car le nombre des cas augmentait. La situation était presque sans issue, et les morts se produisaient trop fréquemment pour permettre aux entrepreneurs de pompes funèbres de venir à bout de leurs tâches. Les enterrements, sans embaumement, avaient lieu en toute hâte, et même le cimetière de Christchurch était bondé de cercueils de morts non embaumés. West y pensa, souvent. Quelle ironie du sort! Tant de spécimens frais et pourtant aucun qui fût utilisable pour ses recherches persécutées. Nous étions terriblement surmenés et le gigantesque effort mental et nerveux qu'il fournissait rendait mon ami morbidement songeur. Mais les adversaires de West n'étaient pas moins harcelés de devoirs accablants. L'université était pratiquement fermée et tous les docteurs de la faculté de médecine étaient requis pour combattre le fléau de la typhoïde. Le docteur Halsey, en particulier, le bon docteur Halsey, s'était distingué par son esprit de sacrifice, mettant son habileté de praticien et toute son énergie au service de cas que beaucoup de ses confrères abandonnaient. Un mois ne s'était pas écoulé que le courageux doyen était devenu un héros, quoiqu'il semblât inconscient de sa renommée, tandis qu'il luttait pour ne pas succomber à la fatigue physique et au surmenage nerveux. West, bien entendu, ne pouvait retenir son admiration pour le courage de son ennemi, mais il n'en était que plus décidé à lui prouver la véracité de ses surprenantes doctrines. Profitant de la désorganisation de la faculté et des règlements sanitaires municipaux, il réussit, une nuit, à faire entrer clandestinement dans le laboratoire de dissection un corps fraîchement décédé, et en ma présence, il lui injecta sa solution modifiée. La chose ouvrit réellement les yeux, mais fixa seulement le plafond, avec un air d'horreur à vous pétrifier l'âme, avant de retomber dans une inertie d'où rien ne put la faire sortir. West déclara que le cadavre avait été trop affecté par la chaleur de l'été. Cette fois-là, nous faillîmes nous faire prendre avant d'avoir incinéré le corps, et West envisagea de renoncer à cette audacieuse utilisation du laboratoire de la faculté. Le point culminant de l'épidémie fut atteint en août. West et moi étions, pour ainsi dire, morts. Et le docteur Halsey mourut, effectivement, le 14. Le 15, tous les étudiants assistèrent à ces hâtives funérailles et offrirent une gerbe impressionnante, quoique plus petite que celle des citoyens d'Arkham et des autorités de la ville. La mort du docteur Halsey fut presque une affaire publique, car le doyen avait été un bienfaiteur. Après l'enterrement, nous étions tous assez déprimés et passâmes l'après-midi au bar de Commercial House. C'est là que West, bien que frappé par la mort de son principal adversaire, nous glaça en nous reparlant de ses fameuses théories. La plupart des étudiants rentrèrent chez eux ou se rendirent à leurs obligations, tandis que le soir s'avançait. J'avais l'intention de faire de même, mais West me persuada de l'aider à passer une nuit mémorable. Sa logeuse nous vit arriver, vers 2 heures du matin, avec un troisième homme, entre nous. Elle déclara à son mari que nous avions manifestement bien bu et bien mangé. Apparemment, cette mégère acariâtre avait raison, car, vers 3 heures du matin, toute la maison fut réveillée par des cris provenant de la chambre de West, où, lorsqu'on enfonça la porte, on nous découvrit tous les deux inconscients, sur le tapis taché de sang, battus, griffés et meurtris, entourés des débris des éprouvettes et des instruments de West. Seule une fenêtre ouverte révélait ce qu'il était advenu de notre agresseur, et beaucoup se demandèrent dans quel état on allait le trouver après le fantastique saut de 2 étages qu'il avait dû faire. Il y avait également d'étranges vêtements dans la pièce. En reprenant conscience, West prétendit qu'ils n'appartenaient pas à l'étranger, mais qu'ils étaient des spécimens, gardés pour des analyses bactériologiques sur la transmission des germes de maladie. Il donna l'ordre de les brûler aussitôt que possible. À la police, nous déclarâmes tous deux ignorer l'identité de notre tardif compagnon. C'était, dit West nerveusement, un étranger sympathique que nous avions rencontré dans un bar. Nous nous étions bien amusés et ni West ni moi-même ne désirions que notre compagnon eût des ennuis. La même nuit eut lieu le second événement horrible d'Arkham, celui qui, à mes yeux, éclipse celui de l'épidémie. Le cimetière de Christchurch fut la scène d'un meurtre atroce. Un veilleur fut griffé à mort, et ses blessures étaient telles qu'elles firent naître un doute quant à leur origine. Pouvait-elle être véritablement le fait d'un homme ? La victime avait été vue en vie bien après minuit, et c'est à l'aube que l'on découvrit le cadavre. Le directeur d'un cirque de la ville voisine fut interrogé, mais il jura qu'aucune bête ne s'était échappée durant la nuit. Ceux qui découvrirent le corps notèrent une trace de sang qui conduisait jusqu'à la fosse commune, où une petite mare de sang stagnait sur le ciment juste devant la grille d'entrée. Une trace plus légère les conduisit jusque dans les bois, mais se perdit bientôt. La nuit suivante, les démons dansèrent sur les toits d'Arkham et un vent de folie surnaturelle souffla. une malédiction s'était emparée de la ville déjà enfiévrée. Malédiction qui, selon certains, était plus grave que l'épidémie. On murmura qu'il s'agissait de la personnification même du fléau. Dans 8 maisons, une chose innommable pénétra et sema la mort dans son sillage. En tout, 17 corps furent retrouvés mutilés après le passage de ce monstre sadique et silencieux. Quelques personnes l'avaient entrevu dans l'obscurité. Elles dirent qu'il était blanc et ressemblait à un singe difforme ou à un monstre anthropomorphe. Il n'avait pas laissé derrière lui tout ce qu'il avait attaqué, car il avait eu faim. Il n'avait pas laissé derrière lui tout ce qu'il avait attaqué, car il avait eu faim. Il avait tué 14 personnes. 3 de ses victimes se trouvaient encore dans des maisons frappées par la maladie et elles étaient déjà mortes. La 3e nuit, des équipes de chercheurs, conduites par la police, le capturèrent dans une maison de Crane Street, près de l'université de Miskatonic. On avait soigneusement organisé les recherches au moyen du téléphone et lorsqu'une personne du quartier de l'université fit savoir qu'elle entendait gratter contre une fenêtre fermée, le filet fut aussitôt mis en place. Grâce aux précautions et à l'alerte générale, il n'y eut que 2 victimes de plus et la capture s'effectua sans incident grave. La chose fut finalement touchée par une balle et transportée à l'hôpital local dans l'excitation et le dégoût général, car il s'agissait bien d'un homme. C'était incontestable, malgré ses yeux nauséeux, ses traits simiesques, son absence de voix et sa sauvagerie démoniaque. C'était bien un homme. On pansa sa blessure et l'individu fut envoyé à l'asile psychiatrique de Sefton, où il se cogna la tête 16 ans durant contre les murs de sa cellule matelassée jusqu'à la récente mésaventure au cours de laquelle il s'échappa. Pour les enquêteurs, le moment le plus horrible fut encore celui où, la face du monstre ayant été nettoyée, ils constatèrent son incroyable ressemblance avec le martyr érudit que la ville venait de perdre et qui avait payé son dévouement de sa personne, feu le docteur Alan Halsey, l'ancien doyen de notre faculté, enterré depuis 3 jours. L'horreur et le dégoût atteignirent alors, en Herbert West et en moi-même, une insoutenable intensité. Ce soir, je frissonne en y songeant, plus encore que le matin où West, à travers ses bandages, murmura cette phrase terrifiante. « Bon sang, il n'était pas tout à fait assez frais. » Ferme les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez les rouvrir. C'était le 2e épisode de Herbert West Réanimateur de Howard Phillips Lovecraft. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi à 23h, pour un 3e épisode. Vous pouvez également consulter les podcasts sur cfmradio.fr. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.